Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. La taxe carbone est un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le président de la Cour des comptes remet un peu de feu dans le débat, nous l'entendrons. Le gouvernement ne veut pas de cette taxe. Les antispécistes les plus radicaux ont-ils encore frappé 3 bâtiments d'élevage de poulets incendiés dans l'Orne? Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place. Du plaisir en perspective pour les amateurs de foot ce soir, Paris-Madrid en Ligue des Champions. La recrue argentine du PSG, Mauro Icardi, devrait jouer. En face, il y a le Real, Benzema, Varane, Zidane. Paris attaque cette saison européenne avec un mot d'ordre « modestie », nous dira Bruno Salomon. À la veille du procès de Jean-Luc Mélenchon, le climat se tend entre juges et politiques. 2 flèches lancées par Gérard Larcher ce matin. Nous l'entendrons et nous entendrons l'analyse de Yaël Gauze. Une partie de la majorité gênée aux entournures après le discours très ferme d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Le député En Marche du Vaucluse, Jean-François Cesarini, est notre invité. L'actualité à l'étranger score toujours aussi serré. Le suspense en Israël. Après les élections, nous irons à Tel Aviv. La mise au point de Michel Barnier à propos du Brexit, c'était ce matin au Parlement de Strasbourg.
Il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier. Nous restons disponibles pour écouter toute proposition britannique dès l'instant où cette proposition apporterait du progrès.
Et vous aurez des comptes à rendre, dit encore le négociateur européen ou britannique. Dans l'actualité encore, bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
Une histoire de métro qui a un petit goût de train fantôme.
Une rame de la ligne 1 du métro parisien, ligne automatique qui passe une depuis 3 stations sans s'arrêter et des passagers qui paniquent hier soir.
Les détails et les explications tout à l'heure. La Chine décongèle 10 000 tonnes de viande de porc pour éviter la pénurie en pleine peste porcine. Nous irons à Pékin. La Terre au carré à 13h30. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu aujourd'hui?
Je reçois le philosophe de l'urbanisme Thierry Pacaud qui, dans un livre, fait une critique acerbe des grands projets d'urbanisation qu'il juge dévastateurs sur le plan sociétal et environnemental. Qu'attendez-vous des villes aujourd'hui? J'attends toutes vos questions pour notre invité.
Et dimanche prochain, journée sans voiture à Paris. Vos questions 01 45 24 7000. Mathieu Vidard à 13h30. Avant cela, quand les scientifiques étudient le plaisir provoqué par la musique et puis le conseil cinéma d'Eva Bétan. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
Depuis la rentrée, le gouvernement fait tout pour éviter un nouvel épisode de manifestation des Gilets jaunes. Et voilà que l'un des hauts personnages de l'État remet dans le débat le chiffon inflammable, la taxe carbone. Taxer les biens dont la production émet beaucoup de dioxyde de carbone. Ce personnage qui plaide pour cette fiscalité, c'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires. Rapport sur le sujet ce matin. Et il était l'invité de nos confrères de France Info.
La fiscalité carbone fait partie des instruments parmi les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La taxe carbone, elle existe déjà. Alors ce que nous disons, c'est qu'il faudrait qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit compensée pour les ménages les plus affectés, pour contribuer à l'acceptabilité de cette fiscalité carbone par l'ensemble des citoyens. Pour avoir des mesures de compensation qui tiennent compte à la fois des revenus, mais également de là où vous habitez, des habitudes qui sont les vôtres, pour aller au travail. Donc, tout cela a été simulé par le Conseil des prélèvements obligatoires et a fait l'objet de propositions qui sont mises sur la table. Alors ce n'est pas au Conseil des prélèvements obligatoires de trancher, bien évidemment, c'est aux politiques de trancher à partir d'éléments que nous nous sommes efforcés d'objectiver au maximum.
Et dans une interview accordée ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France, le ministre du Budget Gérald Darmanin écarte toute possibilité de réinstaurer la taxe carbone. 3 poulaillers, 3 bâtiments d'élevage de poulets ont été incendiés dans l'Orne à Normandelle. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Est-ce une nouvelle action des antispécistes les plus radicaux, ces militants qui s'en sont pris notamment à des boucheries ces derniers mois? Pas de réponse à ce stade, mais des indices, des inscriptions laissées sur les bâtiments. Assassins, camp de la mort, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place. Marcelin Robin.
Didier Guillaume s'est entretenu pendant plusieurs dizaines de minutes avec l'éleveur et de nombreux élus devant un des 3 bâtiments incendiés sur lequel on peut lire l'inscription « Camp de la mort ». Des militants défendant la cause du bien-être animal pourraient être responsables de la destruction du site. Il n'y avait pas d'animaux à l'intérieur dans la nuit de lundi à mardi. Les échanges ont été tenus à l'écart des médias derrière une zone protégée par la gendarmerie. Le ministre de l'Agriculture a expliqué être venu pour soutenir l'éleveur. Il dit comprendre les citoyens qui ne veulent plus plus manger de viande, mais condamne fermement cet acte.
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'avoir la vie qu'il veut. Mais en République, on vit ensemble. Donc on peut être en désaccord. On peut avoir envie de manger de la viande ou pas manger de la viande, c'est pas le sujet. Mais moi, je défends les agriculteurs, je défends les éleveurs qui font un travail très dur, un travail remarquable, qui gagnent très mal leur vie et qui sont en plus montrés du doigt par la société.
L'éleveur s'est montré très touché par cette visite, lui qui attendait l'arrivée de près de 30 000 volailles dans ses bâtiments la semaine prochaine. Place maintenant à l'indemnisation et la reconstruction, puisqu'un expert en assurance devait procéder ce matin à l'examen du site. Un travail repoussé de quelques heures avec cette visite ministérielle.
Reportage Marcelin Robin, France Bleu Basse Normandie. Le deuxième personnage de l'État était ce matin l'invité de France Inter, Gérard Larcher, président du Sénat. Droite modérée. Et voilà que lui aussi demande à la justice de déplacer un procès pour cause d'élection. Le procès Fillon doit se tenir juste avant les municipales l'année prochaine. Et ils sont plusieurs chez les Républicains à y voir un problème pour ne pas dire plus. Écoutez Gérard Larcher.
Moi je suis pour une démocratie apaisée. Avoir une conclusion trois jours avant les élections municipales, je ne suis pas certain que ce soit les conditions de cet apaisement. Quand je rencontrerai la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, en toute indépendance de sa part, mais je pense que la question mérite d'être posée.
La date avait été choisie en accord avec l'avocat de François Fillon. Autre message lancé ce matin par Gérard Larcher à propos de ce magistrat lyonnais qui a relaxé des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, jugeant l'action légitime. Geste de rébellion pour protester contre l'inaction climatique. Commentaire du président du Sénat.
Vous avez un juge militant. Ce juge militant, il faut qu'on y soit attentif. La tête de Macron, on a eu le mur des cons. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention si on veut que collectivement, nous ayons confiance dans l'autorité de justice.
Voilà, c'était ce matin sur France Inter. Deux flèches en direction des magistrats, après celle de Jean-Luc Mélenchon, dont le procès s'ouvre demain, et les autres. Yaël Gauz, les politiques font front face aux magistrats en ce moment.
Oui, toutes ces affaires n'ont rien à voir entre elles, mais le bruit politique est le même. Fureur des Balkany et compassion de ses adversaires, comment le juge a-t-il osé mettre Monsieur le maire sous mandat de dépôt? Fureur des Insoumis, Mélenchon, Lula, même combat contre cette justice aux ordres qui poursuivrait l'opposition pour mieux la museler. François Bayrou, entendu dans l'affaire des assistants parlementaires, les élus Modem s'insurgent contre cette justice trop lente qui les plombe politiquement. Enfin, Richard Ferrand, mis en examen, aussitôt encouragé à tenir par le président. Quand il s'agit d'hurler contre ces juges inquisiteurs, il n'y a plus vraiment d'opposition, comme si se reconstituait une grande amicale des élus. Un air de déjà-vu, Nicolas Sarkozy et le mur des cons, souvenez-vous, les magistrats petits pois, François Fillon et le cabinet noir. Mais tout ça est très paradoxal, Bruno, car c'est le législateur, le politique donc, qui a donné de nouveaux moyens aux juges pour faire leur travail dans la foulée du scandale Cahuzac. L'opinion réclame plus de probité, le législateur suit et s'étonne ensuite que le juge fasse son travail. Depuis la semaine dernière, cette avalanche de réactions hostiles met à mal le principe de séparation des pouvoirs.
La question de la justice dans le débat et l'immigration également. Et cette tribune diffusée hier par une quinzaine de députés de l'aile dite gauche de La République En Marche pour éviter une hystérisation du débat sur l'immigration. Bonjour Jean-François Cesarini.
Bonjour.
Député du Vaucluse, alors vous dites que ce texte avait été écrit avant le discours d'Emmanuel Macron, qui a tenu des propos très fermes récemment sur l'immigration. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste, dit le président de la République par exemple. On a du mal à croire que ce soit pas une réponse tout de même à ce discours.
Non, ce texte effectivement avait été écrit avant, notamment en réponse avec ce qu'avait pu dire notamment le ministre de l'Intérieur sur la notion de quota. On considérait que c'était pas une bonne idée, que c'était une vieille idée sarkozyste que Sarkozy lui-même avait abandonnée. Et on voulait simplement contribuer à ce débat donc, qui va avoir lieu le 30 septembre dans l'hémicycle. Oui. Et donc pouvoir effectivement donner une autre vision pour nous de l'immigration. Pas simplement réduire l'immigration à l'asile politique, mais aussi parler de l'immigration économique, qui est souvent, et tous les rapports le montrent, plutôt positif pour notre économie, et à la fois montrer aussi toute la dimension territoriale de l'immigration dont on parle assez peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour intégrer effectivement des migrants, souvent dans nos villages, il y a beaucoup d'exemples réussis, d'écoles qui ne ferment pas parce qu'il y a de nouveaux élèves, des commerces qui se réaniment, etc., etc. Et montrer que la deuxième étape de la décentralisation, celle que veut le président de la République, et il a raison, doit aussi prendre en compte l'immigration, et qu'on ne va pas simplement être dans la diabolisation de l'immigration.
Pas d'hystérisation, pas de diabolisation, on comprend le sens de ce que vous dites.
dites, est-ce que du coup vous êtes parfaitement en ligne ou pas avec ce qu'a dit le président de la République quand il dit que les flux d'entrée n'ont jamais été aussi bas en Europe, mais les demandes d'asile jamais étaient aussi hautes en France, que le droit d'asile est détourné de sa finalité, que les bourgeois n'ont pas de problème avec ça, que c'est les classes populaires qui en souffrent et qu'il ne faut pas être un parti bourgeois. Est-ce que ces mots-là vous conviennent ?
Alors, donc, tout ce que vous avez dit, effectivement, déjà, il y a les chiffres sur lesquels il a bien évidemment raison, le fait que les demandes d'asile en France augmentent. Oui. Après, il faut effectivement regarder le nombre de demandeurs d'asile qui sont retenus et à la fois regarder aussi par rapport aux autres pays d'Europe. Aujourd'hui, on est à 60 000, je crois, migrants pour 1 million d'habitants. Donc, on est plutôt 13e ou 14e en Europe. Donc, là-dessus, il a raison que quelquefois, le droit d'asile peut être détourné, qu'il y a des pays qui en font une utilisation industrielle, a-t-il dit, des pays qui ne sont pas des dictatures, donc on ne risque pas d'être emprisonné pour ses idées, donc il y a peut-être des choses là à revoir, moi j'ai pas de problème avec ça, oui. Même si on peut être un pays sûr, par exemple, comme le Sénégal, mais avoir des régions où il y a Boko Haram qui ne sont pas des régions sûres, donc il faut être un peu plus nuancé, mais néanmoins, il a raison. Par contre, ensuite, sur l'idée de bourgeoisie qui ne serait pas en contact avec l'immigration et de bourgeoisie qui ne voterait pas Front National, je pense que là, il y a des choses qui sont peut-être un peu floues et il faut le préciser autrement. Aujourd'hui, la plupart des migrants sont plutôt parqués dans des grandes métropoles. C'est bien ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on les parque dans des camps, sous des ponts, oui. Alors que finalement, le vote Front National n'est pas très fort dans les métropoles. Le vote Front National, il est plutôt fort hors des métropoles, plutôt dans nos territoires à nous. Donc, corréler directement le côté, j'allais dire, immigration et vote Front National n'est pas si clair que ça. Je pense que le vote Front National est beaucoup plus complexe que ça, notamment par rapport à des fractures territoriales, du déclassement. Et donc, finalement, c'est les gens des bourgs, si j'ose dire, qui votent Front National, plus que les gens des métropoles. Donc, quelque part, je crois qu'il y a aussi des bourgeois qui votent Front National et que c'est pas le problème. Nous, dans nos territoires, quand on est à 60% sur une commune avec un vote Front National, bien évidemment qu'il y a autant les riches et les pauvres qui votent pour ce parti-là. Donc, voilà, le vote Front National me semble tout petit peu plus complexe qu'un problème de bourgeoisie.
Merci Jean-François Cesarini d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions sur ce sujet et donc le débat dans l'hémicycle le 30 septembre. Le Brexit et la mise au point du négociateur européen Michel Barnier ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Des mots très fermes.
Près de 3 ans après le référendum britannique, mesdames et messieurs, il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier. Nous restons disponibles pour écouter toute proposition britannique, y travailler jour et nuit, dès l'instant où cette proposition apporterait du progrès. Les conséquences du Brexit ne sont pas théoriques. Moi, j'avais souvent entendu dire ici, dans cet hémicycle, qu'elles étaient innombrables et souvent sous-estimées sur le plan humain et social, sur le plan financier et budgétaire, sur le plan juridique et technique. Elles sont considérables. Je le dis à M. Zani, qui n'est pas là, Monsieur Farage, vous devez dire la vérité. Et vous devrez rendre des comptes sur les conséquences du Brexit, qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreuses que vous voulez bien le dire.
Le ton très ferme de Michel Barnier ce matin à Strasbourg, propos recueillis par Angélique Boin. En Israël, le suspense est quasi intact après une nuit de dépouillement. 92% des bulletins examinés. Qui a l'avantage après les législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahu ou son challenger Benny Gantz? Disons que le match est terminé, ils sont à égalité, c'est l'heure des pénaltys et Netanyahu a les jambes un peu plus lourdes. En chiffres, 32 sièges chacun, 32 pour leur parti, la droite ou le centre, même avec leurs alliés respectifs, aucun n'a la majorité. Mais il y a une nouvelle donne par rapport aux dernières législatives déjà ultra serrées du printemps. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Inter en direct de Tel Aviv. Vous allez nous dire dans un instant en quoi consiste cette nouvelle donne. D'abord, écho des deux côtés, les sons et les déclarations recueillies ces dernières heures. Le porte-parole de Benny Gantz hier soir.
C'est une victoire, mais la vraie victoire. Aux élections précédentes, nous avions le même nombre de mandats que le Likoud. Donc la victoire n'est pas uniquement liée au nombre de voix.
Donc cette victoire, elle est beaucoup plus appuyée, c'est ça que vous dites ?
C'est-à-dire que la fois passée, nous avions crié après les résultats. Mais aujourd'hui, on était plutôt calme. Vous êtes là depuis le début de la soirée. Donc vous avez vu qu'on n'a pas... On a un peu applaudi quand on a vu qu'on avait un peu plus de mandats que le Likoud, mais ça ne suffit pas. Donc on sait très bien qu'on aura une négociation qui ne va pas être simple, puisque les alliés dits naturels ne nous permettent pas d'avoir la coalition. Donc ça veut dire que la négociation sera avec un Likoud, mais comme nous avons des conditions, et nos conditions c'est d'abord sans Netanyahou, Et d'autres conditions, c'est que nous ferons coalition avec des gens qui respectent nos valeurs.
La question des alliances en question dans les propos de la porte-parole de Benny Gantz. Du côté de Netanyahou, cette électrice, elle s'appelle Karen. Elle était au quartier général de Bibi hier soir, arrivée un peu abattue, repartie requinquée par le discours de cette bête politique qu'est Netanyahou.
Il est très optimiste, il nous rend bien plus optimistes à propos de la situation. Comme toujours, c'est un grand leader, il sait comment parler, il a du charisme. Avec lui, vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Et maintenant, on se sent vraiment mieux.
Vous pensez qu'il va rester Premier ministre ?
J'en suis vraiment sûr, oui.
Voilà pour cette militante que vous avez rencontrée, Frédéric Mettezon. On vous retrouve en direct de Tel Aviv. Netanyahou a donc encore de l'énergie, mais la nouveauté de cette élection, c'est que les partis arabes pourraient devenir la troisième force politique du pays. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Netanyahou, Frédéric.
Oui, avec une douzaine de sièges pour la liste arabe unie. Contrairement à l'élection précédente, les principaux partis arabes d'Israël et le parti communiste se sont réunis et cela a payé, couplé à une petite hausse de la participation. Que vont faire ces députés arabes après cette belle performance électorale? Il y avait déjà débat entre eux pendant la campagne, Bruno. Leur tête de liste, Ayman Odeh, se disait prêt à participer à un gouvernement, mais d'autres préféraient rester dans l'opposition pour ne pas, on va dire, cautionner les inégalités et parfois les discriminations dont les Arabes israéliens peuvent être l'objet parfois. Mais sans députés arabes, c'est plus compliqué pour Bleu Blanc de constituer un bloc. Voilà pourquoi Benny Gantz, le leader centriste, va rencontrer Ayman Odeh.
L'autre incontournable, Frédéric, c'est le nationaliste laïque Avigdor Lieberman.
Oui, la formule a été répétée, rabâchée, mais il n'y a pas plus juste. Cet ancien collaborateur très proche de Netanyahou au parti, puis dans son cabinet, devenu son ministre, Lieberman est le faiseur de roi. Sa petite dizaine de sièges permettrait à l'un des deux blocs de basculer à 61, qui est la majorité absolue. Lieberman, le nationaliste né en URSS, a longtemps tenu un discours anti-arabe très agressif et puis il a changé de tonalité à partir du scrutin du mois d'avril. Il se pose en laïque, intransigeant et à l'entendre, lui et ses colistiers, les juifs orthodoxes seraient pour Israël une menace aussi grave que le Hamas. Ce discours a séduit ses électeurs traditionnels issus de la communauté russophone, mais aussi des libéraux attachés à la laïcité et choqués par la pression religieuse. Lieberman souhaite donc un gouvernement d'union laïque avec le Likoud et Bleu Blanc, sans les partis religieux juifs et sans les partis arabes.
Frédéric Mettezon en direct de Tel Aviv avec Christophe Papon. Et donc les chiffres et les résultats encore plus détaillés à suivre cet après-midi. 10 000 tonnes de viande de porc décongelées d'un coup. Il y a urgence en Chine. Épidémie de peste porcine, pas dangereuse pour l'homme, mais ravageuse pour les cheptels. Risque de pénurie à l'approche d'une période importante. Bientôt les 70 ans de la République populaire de Chine, c'est en octobre, et des fêtes familiales à l'occasion. Saint-Terre à Pékin, Dominique André.
La Chine puise dans ses réserves d'urgence de viande congelée. Pour faire face à la demande des Chinois qui s'apprêtent à fêter leur journée nationale le 1er octobre, pas question pour le gouvernement de laisser le mécontentement social monter. 10 000 tonnes de porc congelé seront mises sur le marché dès demain pour stabiliser la flambée des prix. En un an, ils ont augmenté de près de 50%. La viande la plus consommée par les Chinois devient un plat de luxe pour des familles qui souffrent déjà de la montée du coût de la vie dans les grandes villes chinoises, en particulier à Pékin. La Chine est confrontée à la peste porcine venue d'Afrique après avoir touché le nord-est du pays l'été dernier via la Russie. La maladie s'est répandue dans tout le pays et a même atteint la Corée du Sud hier. Le cheptel de porc, qui est le plus important au monde avec 400 millions de bêtes, a diminué de 25% sur un an selon le ministère chinois de l'Agriculture. Face à cette épidémie, impossible pour le moment à juguler en l'absence d'un vaccin, le gouvernement chinois est c'est de diminuer son impact économique. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le peuple chinois et son vieil ami Jean-Pierre Raffarin. L'expression est dans la presse officielle qui annonce que l'ancien Premier ministre, tout comme Raoul Castro ou Vladimir Poutine l'année dernière, reçoit la médaille de l'amitié en Chine. Jean-Pierre Raffarin, représentant spécial du gouvernement français dans le pays.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Ligue des champions de football, 21h ce soir, Parc des Princes. Une affiche somptueuse pour commencer la saison avec le PSG. PSG Real Madrid, bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Bruno.
Affiche somptueuse, mais vous nous dites que le PSG aborde cette saison avec une obsession, la modestie.
Effectivement, ça ne sera pas une saison bling bling.
Bon.
Oui, c'est le cas au Paris Saint-Germain. Ça peut arriver, en tout cas c'est ce qu'ils veulent. Il y a un petit peu plus de 15 jours, c'est Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui a planté le décor en déclarant cela. Cette saison, le club parisien va faire profil bas. D'ailleurs, renseignement pris en interne, le message qui est passé est le suivant. Ambition, mais surtout humilité. Désormais, il faut remettre le football au centre du jeu, nous explique-t-on. Les joueurs sont priés de faire léger sur les réseaux sociaux, pas de déclaration tapageuse. Exemple, pour un match comme celui face au Real, aujourd'hui, habituellement, au PSG, beaucoup d'interviews proposées. Eh bien là, non, seulement deux joueurs ont eu le droit de prendre la parole, en dehors bien sûr du protocole UEFA. Ça change un petit peu. En gros, avant de parler, on nous explique qu'il faut faire des résultats au Paris Saint-Germain. Un premier est attendu bien sûr face au Real Madrid aujourd'hui, même si ce n'est pas maintenant qu'on jugera bien sûr le Paris Saint-Germain qui réussira sa saison, seulement s'il passe au minimum les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions qui, on le rappelle, se refuse depuis 3 ans au PSG.
Au bas mot, coup d'envoi à 21h, à suivre également ce soir Atlético Madrid-Juve. Rappelons qu'hier, Lyon et Saint-Pétersbourg ont fait match nul un partout et que l'Ajax a battu Lille très sèchement, 3-0. Manque de compétitivité, productivité insuffisante, aucune assurance pour l'avenir. Il est question d'une des grandes entreprises françaises, Michelin. La direction a présenté un diagnostic de l'activité chez Michelin en début de semaine. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Pas de fermeture de site en vue, assure la direction. Les salariés de l'usine de La Roche-sur-Yon en particulier sont inquiets. Que se passe-t-il chez Michelin?
Alors vous citez le cas du site vendéen de La Roche-sur-Yon. C'est un site spécialisé dans la production pour les poids lourds. Et de cette usine, il sort chaque année 680 000 pneus destinés aux camions. Et on ne peut pas dire que l'activité poids lourd se porte aujourd'hui très bien. Comme on le dit chez Michelin, la direction, la vie d'une entreprise, c'est de faire ce qu'il faut pour prendre les bonnes mesures au bon moment pour éviter les gros soucis. Alors, vous l'avez dit, aucune menace sur l'emploi, surtout du côté du siège ce matin, mais il est clair que parmi la douzaine de sites que compte Michelin dans l'Hexagone, certains sont plus en difficulté que d'autres. Le site de La Roche-sur-Yon en fait partie, alors que la concurrence asiatique et des pays de l'Est fait de plus en plus rude, que le groupe est challengé par ses concurrents, il faut peut-être changer certaines choses. La CGT qui a refusé de participer aux discussions relatives à ce diagnostic dénonce une volonté de faire peur aux gens pour leur imposer un chantage à l'emploi, en gros des efforts de compétitivité ou bien la porte. La direction répond ne pas encore avoir pris la moindre décision.
Des pneus aux rames de métro, la RATP a beau affirmer que les procédures de sécurité ont été respectées. L'histoire qui vient fait froid dans le dos. Un métro automatique, ligne 1, direction La Défense. La ligne sous les Champs-Élysées a filé sans s'arrêter et passé 3 stations, comme cela, Concorde, Champs-Élysées, Franklin Roosevelt. Le métro a fini par s'arrêter à Georges V, tout de même, Maureen Suignan.
J'ai eu la peur de ma vie, raconte Thomas, un voyageur sur les réseaux sociaux Twitter. Il est quasiment 22h hier soir. La rame dans laquelle il se trouve repart des Tuileries, direction Château de Vincennes. Mais une première station passe sans arrêt, 2, puis 3. De quoi affoler ses voisins qui tirent sur le signal d'alarme. Ils craignent un accident. Le métro s'arrête finalement juste avant la station Georges V où se trouve une autre rame. Ce matin, la RATP reconnaît une série d'incidents, une sorte de malheureux effet domino. Petit retour en arrière, tout est parti en fait d'un incident électrique à la station Palais-Royal. Des étincelles et un bruit très fort qui ont d'ailleurs là aussi inquiété des voyageurs. Alors dans ce type de situation, il faut réorganiser le trafic, tâche effectuée par des agents au poste de commandement centralisé. Mais là, deuxième problème, il y a eu une mauvaise programmation, reconnaît la RATP. Mais elle se veut rassurante. Le système de sécurité automatique a détecté l'anomalie et arrêté la rame. Il n'y a eu en aucun cas un risque de collision, affirme la RATP.
Ouf, le conseil cinéma du mercredi. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Au cinéma cette semaine, le dernier James Gray, le dernier Woody Allen et puis Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, la cinéaste de Naissance des pieuvres. C'est avec Adèle Haenel et Noémie Merlant, prix du scénario à Cannes. Un bout de l'histoire, 1770, une jeune fille sort du couvent. Sa mère veut la marier et elle veut faire son portrait. C'est le début d'une histoire sentimentale racontée par une jeune femme, Céline Sciamma, qui a imposé une voix, dites-vous.
Oh oui, alors je veux dire, il y a un paradoxe qui est le cœur de ce film. C'est que c'est une histoire d'amour sans espoir. Et pourtant, vous sortez de ce film avec une pêche, pardonnez-moi l'expression, d'enfer. Alors, romanesque, oui, Céline Sciamma l'est ici follement. Et le film d'époque lui donne l'occasion, le cadre pour le revendiquer. Vous avez raconté cette histoire, c'était l'usage à l'époque d'envoyer le portrait au promis. Ces deux femmes n'auront que ces quelques jours.
La peintre chargée de la
vie. La peintre et le modèle. Et va naître un sentiment amoureux entre elles. Il ne peut pas avoir d'avenir. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on est né dans une double temporalité. On est à la fois dans le présent d'un amour, dans sa beauté, dans aussi le fait que l'amour, ça vous rend plus libre, plus inventif, votre tête marche plus, c'est comme si elle inventait une philosophie, une grammaire de l'amour, et vous êtes déjà dans l'après. Et il y a une idée que je trouve magnifiquement insolente, c'est qu'un grand amour, qu'il dure une heure, un an, un jour, une semaine, ça vous, c'est un carburant pour la vie. Écoutez Céline Sciamma.
L'amour émancipe, l'amour donne du courage, l'empreinte de l'autre n'est pas un vide. C'est une absence, possiblement. Mais ça n'est pas un vide. Les amours vécus sont des amours reçus. Hein ? Les amours vécus sont des amours reçus. Les grands amours vivent en nous, survivent en nous. Je vois pas du tout l'endroit où ça peut devenir une défaite.
Alors, Portrait de la jeune fille en feu est un beau film consolatoire. Sans mouchoir, par le haut, souriez, vous avez été aimé.
À propos d'émotion, peut-on mesurer l'émotion collective provoquée par la musique. Figurez-vous, Eva, que des chercheurs du CHU de Besançon travaillent sur la question. Ils profitent d'un grand concours de jeunes chefs d'orchestre qui se tient dans la ville cette semaine. Sophie Becherel, hier, on jouait Beethoven.
Les premières notes de la symphonie numéro 2 en ré majeur résonnent. Elle sera jouée 12 fois dans la journée par 12 chefs différents. Parmi le public, une brochette de volontaires équipée de casques à électrodes et de capteurs au bout des doigts.
Ce qu'on va récolter avec ce type de casque, c'est l'activité électrique produite par le cerveau.
Coralie Joucla, doctorante au laboratoire de neurosciences et au centre d'investigation clinique du CHU de Besançon.
Là, on va enregistrer l'activité synchronisée sur une quinzaine de personnes. Donc c'est vraiment une première mondiale.
Alors qu'on sait beaucoup de choses sur les comportements collectifs, la science est peu intéressée aux émotions collectives. C'est l'objet de cette étude pilotée par Lionel Pazard, médecin et chercheur au CHU de Besançon.
C'est l'émotion partagée que l'on recherche. Donc ces moments-là peuvent être produits par un chef d'orchestre plutôt qu'un autre, avec un morceau plutôt qu'un autre. Mais surtout, ce que l'on voudrait voir, c'est est-ce que l'on peut capter, en particulier au niveau cérébral, des stimulations particulières qui nous permettraient de dire, ben voilà, là on a une émotion collective partagée entre plusieurs individus.
Identifier des signaux précis, objectifs, cela permettrait d'améliorer le diagnostic des personnes en état végétatif.
Quand vous êtes avec un proche, un soignant et une personne en état végétatif, quand vous mettez une musique que la personne adorait et frissonnait dessus, par exemple, l'idée c'est de retrouver ce même frisson partagé entre les trois individus qui écoutent la même musique.
C'est samedi qu'on saura si le chef lauréat de Besançon est celui qui a le plus fait vibrer le public.
Voilà pour les précisions de Sophie Becherel. Et il y a une star et de l'émotion sans doute ce soir à la Maison de la Radio, la contralto Marie-Nicole Lemieux chante Berlioz à l'Auditorium. Magnifique soirée d'émotion en perspective. Je ne sais pas s'il y aura des électrodes sur les têtes des spectateurs.